est affolant, c'est qu'ils sont prêts à dépenser des sommes astronomiques pour entraver notre grève, tout simplement.
Ceux qui appellent, en tout cas,
et ne veulent entendre parler d'aucun consensus.
Bienvenue sur le Canu Info du vendredi.
Alors, au programme aujourd'hui, on va commencer avec un invité à parler du collectif de soutien aux migrants et migrantes.
Et ensuite, on continue avec notre rubrique vélo. On est allé faire un reportage sur l'atelier Change de chaîne.
Puis, on parlera de Gérard Collomb.
Et oui, bien sûr, Gérard Collomb, avant de passer aux Nationals et d'étudier la loi sur l'immigration.
Et ensuite, on parlera de la spécialisation du vendredi, le gaz de schiste.
Génial. Et ensuite, pour finir, on parlera des enfants qu'on envoie au commissariat en Angleterre.
Et ensuite, l'agenda.
Génial.
Prenons une ville, Lyon.
Lutte contre l'extrême droite, lutte contre les restructurations, manifestations de soutien à la ZAD et bien d'autres. Maintenant, dans le Canu Info, c'est la rubrique locale.
À Lyon, nous pensons que chacun est capable d'innover. Nous rassemblons les conditions nécessaires pour faire émerger les projets les plus smart.
Avec la volonté la plus respectueuse et la plus responsable.
Allez-y, la précarité n'est pas minimale à Lyon.
Pour cela, nous récoltons les données du territoire, les organisons et les traitons.
Je voudrais qu'on ne pense pas ici que cela fait plaisir à aucun des adjoints élus ici d'envisager la fermeture de ces
en bonne intelligence. Pouvoir inventer et construire la ville de demain est une chance. Construisons-la ensemble.
On ne vous laissera pas faire.
On ne vous laissera pas faire.
Monsieur le maire.
Monsieur le maire.
Monsieur le maire.
C'est nous les zadistes. On s'entendrait.
Et voilà, donc c'est parti pour la rubrique locale. On a la chance ce soir d'avoir un membre du collectif de soutien aux migrants et aux migrantes.
Qui chance pouvoir... ou pas, hein, vous verrez plus tard.
Comment ?
Chance ou pas, tu verras dans 10 minutes aussi.
Et du coup, bah, comme t'es là, est-ce que tu peux un petit peu nous présenter déjà le collectif en soi, qui y a dans ce collectif, c'est quoi le but de ce collectif ?
Donc pas de souci. Donc ce collectif, il est né au mois de septembre. Il y avait eu un premier rassemblement appelé par des individus Place de la Comédie. Alors c'était suite à la mort du petit Aylan et plutôt tous les morts qu'il y avait depuis des mois et des mois pour faire un peu bouger les choses, que les gens puissent se rassembler, puis montrent en fait voilà qu'ils étaient prêts à accueillir des gens, notamment en France et sur Lyon. Donc ça avait été plutôt une réussite pour un appel via les réseaux sociaux et via les individus, parce qu'il y avait je crois à peu près 400 personnes. Et le but aussi de ce rassemblement, c'était donc après qu'il y ait quelque chose qui se monte d'un peu plus concret, on va dire, qu'un collectif comme il y en a d'autres qui existent puisse se monter sur Lyon pour enfin se saisir de cette question des migrants et des migrantes. Donc cette chose a été faite, donc ce collectif s'est créé, voilà. Donc c'est assez large, hein, donc ça va des libertaires jusqu'aux associations comme la LDH par exemple, voilà. Donc ils sont très bien sur certaines choses, des fois un peu moins bien, mais voilà. Donc il y a des orgas, des associations, des collectifs, notamment le collectif étudiants, étudiantes étrangers et sans papier. Et le but donc c'est de construire après une mobilisation sur le long terme avec pas mal d'objectifs. Il y a eu plusieurs choses de faites depuis ce premier rassemblement. Il y avait eu un deuxième rassemblement, puis une manif au mois d'octobre, hein, mi-octobre de mémoire, où il y avait eu quand même un petit peu de monde, quoi. Il y avait eu je crois 700 personnes, ce qui était plutôt pas mal pour une première mobilisation. Derrière c'était enchaîné voilà plusieurs réunions pour aboutir après un rassemblement, mais qui est tombé du coup après la fameuse état d'urgence. Et donc du coup ça avait été assez compliqué, notamment dans le collectif, pour un peu faire résister aux pressions de la préfecture, hein, parce qu'il y avait un rassemblement qui avait été posé, une manif qui avait été posée et qui avait été interdite, puis un rassemblement qui avait été posé qui avait été interdit parce que trop près d'un bâtiment public, c'était Place des Terreaux. donc trop près de la mairie. Donc du coup, ce rassemblement avait quand même eu lieu, malgré tout, place Bellecour. Bon, il y avait eu 300 personnes. C'était plutôt bien vu le délai pour prévenir les gens que finalement il y avait un truc qui se faisait, mais dans un autre lieu, etc., etc. Les vacances d'hiver sont venues par là, et puis on avait décidé quand même de faire autre chose après, derrière, et notamment une réunion publique, parce que le but de ce collectif-là, c'est aussi de faire un peu de sensibilisation, pédagogie, voilà, sur la question des migrants et des migrantes. Et la meilleure façon de le faire, c'est aller dans la rue, éventuellement avec des tracts, mais c'est aussi d'organiser des réunions publiques, parce que les gens, du coup, peuvent venir poser leurs questions et on peut, voilà, répondre à tout ça. Et donc, cette réunion publique, elle avait lieu avant-hier, donc c'était mercredi, à la Bourse du Travail. C'était plutôt bien aussi que ce soit là-bas, parce que du coup, ça implique, même s'il n'y a pas énormément de syndicats encore dans ce collectif, ça commence à impliquer un petit peu, au moins sur... Il y avait le lieu qui était un peu symbolique, on va dire. Voilà, c'était dans la salle Moissonnier. Alors, plutôt bonne surprise, parce que moi, pour avoir fait perso pas mal de choses dans cette salle, c'est rare qu'elle soit remplie sur des événements politiques sur cette thématique-là. Et là, voilà, donc c'était à 6h30. Il y avait déjà des gens à 18h qui étaient là, ce qui était plutôt bon signe. Et puis l'amphi était plus ou moins bien rempli. Il y avait à peu près 200-250 personnes au départ. Donc voilà, par rapport à cette soirée, donc, où il y avait une invitation d'une avocate, Marie-Noëlle Fréry, pour faire un point justement sur les nouvelles lois pour les étrangers et étrangères, donc qui englobent tous les réfugiés et les migrants et migrantes. Donc voilà, parce qu'elle est assez calée sur la question, ça fait des années qu'elle bosse là-dessus. Donc elle avait trois quarts d'heure pour un peu faire le point là-dessus, ce qui n'est pas évident, mais voilà, elle a plutôt bien fait. Derrière, il y a eu pas mal de questions, des personnes qui étaient là, donc c'était plutôt bien aussi. Et puis après, derrière, il y avait donc une deuxième partie qui était, voilà, appeler quelle riposte, quelle solidarité mettre en place pour les réfugiés, les migrants et les migrantes. Voilà, c'était un peu plus chaotique, on va dire. Voilà, c'est des petits soucis des collectifs un peu larges, comme on dit, voilà, parce que du coup, il y a les orgas qui voulaient prendre la parole en leur nom propre. Peut-être mieux de faire une parole commune pour éviter que les gens se bloquent là-dessus. Malgré tout, il y a quand même des choses qui ont été dites assez intéressantes. D'ailleurs, j'en profite pour dire qu'il y a l'enregistrement qui a été fait toute la soirée, qui va être proposé pour être mutualisé, donc, ou qui va être mis sur le net pour que tout le monde puisse en profiter, le retranscrire s'il y en a qui le souhaitent, voilà, pour qu'on puisse en faire une petite brochure, voilà, au moins sur la première partie avec Marie-Noëlle Fréry. Donc voilà, par rapport à ce collectif, donc après, donc le collectif continue à vivre, hein. Il y a eu un appel en fin de réunion, même s'il n'était pas très clair, c'est-à-dire que ça reste pour le moment un truc assez strict, entre guillemets, d'organisation de collectif, et malheureusement pas encore ouvert sur des individus, donc ça bloque un petit peu à ce niveau-là aussi. Mais il y a d'autres choses qui vont être faites, vu le succès de ces petites réunions au niveau du nombre de personnes qui sont venues, au niveau du public, c'était assez mixte, on va dire, au niveau de l'âge, au niveau des personnes qui étaient venues, il y a pas mal de migrants et migrantes qui sont venus, donc c'était bien. Donc voilà, il y a d'autres choses qui vont se faire. Des choses dans la rue, ça reste compliqué, parce qu'au niveau du collectif, voilà, vu l'état d'urgence, voilà, on n'est pas tous et toutes d'accord sur que faire en cas d'interdiction, voilà, ça reste des problèmes, voilà. Autre, donc on tiendra, vous serez tenus au courant de tout ce qui se passe via ce collectif sur Rebellion, normalement, voilà, à chaque fois qu'il y aura quelque chose qui se fera. Il y avait forcément un lien dans la soirée avec l'état d'urgence, parce que ça met un peu, voilà, de pression supplémentaire sur les migrants et les migrantes, et sur leur soutien. Donc voilà, on parlera sûrement tout à l'heure du coup de l'appel qui a été fait pour une autre réunion publique et une autre manif sur le sujet. Donc voilà, après, plus concrètement, on va dire, entre guillemets, du coup, moi je suis parti du coup du collectif en étant membre d'une organisation politique, donc, qui est la CGA, la coordination des groupes anarchistes. Et par rapport à des trucs qui peuvent se faire un peu plus concrètement, parce que c'est ce qu'on a essayé de faire pour cette réunion, mais ça n'a pas été entendu pour le moment, donc on espère que ça le sera. C'est par exemple sur les réunions du collectif ou sur des réunions publiques qu'il puisse y avoir des traductions en fait en simultané dans la salle. Alors pas forcément des traductions comme ça peut se faire des fois, où chacun à leur tour, les gens prennent le micro et traduisent petit à petit en plusieurs langues, parce qu'il y a pas mal d'arabophones ou d'anglophones dans la salle. Donc du coup, ils n'ont pas tout pané, c'est du coup dommage que c'est les premiers concernés, même s'ils sont aidés à côté. Donc voilà, ils étaient venus aussi en soutien, mais bon voilà, c'est quand même dommage. C'est de faire des petits groupes en fond de salle avec des traductions instantanée, en fait, voilà, un petit groupe arabophone, un petit groupe anglophone, pour pouvoir du coup que tout le monde puisse participer, et tout le monde aussi puisse participer oralement et dire des choses s'ils en avaient, parce que du coup, bon, là c'est plus les collectifs qui sont exprimés, mais voilà, c'est une des choses qu'on, nous, on aimerait bien mettre en place, voilà, dans ce collectif ou ailleurs, hein, si ça se fait pas avec ce collectif, ça se fera avec d'autres. Et puis nous, on continuera, voilà, le but de ce collectif, c'est vraiment de faire de la pédagogie, de la sensibilisation, parce que bon, après, tout seul avec l'étiquette un peu libertaire, des fois ça passe mal, les gens veulent pas trop entendre. Avec sous l'étiquette d'un collectif, ça peut passer un peu mieux. Donc voilà, notamment aussi pour essayer de d'intégrer et que les syndicats se bougent aussi sur cette question, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent sur des déclarations, en fait, profession de foi un petit peu au niveau national sur les gros syndicats, mais après au niveau local, c'est encore un peu du mal à se bouger. Donc on espère que ça le fera. Ce qu'il faudrait faire aussi, nous, on pense, c'est vraiment essayer de démocratiser aussi toutes ces lois, parce que la compréhension du législatif, elle est compliquée même pour nous, soutien. Alors pour les personnes qui débarquent, qui ont mis 5-6 ans à arriver en France avec des parcours de fous, donc ça reste un des trucs compliqués. Donc il y a plein de matériel, je pense, à éditer en plusieurs langues, pour leur permettre une meilleure arrivée, qu'ils puissent trouver au moins des lieux où ils sont accueillis correctement. Il y a d'autres choses aussi qu'on pourrait mettre en place, c'est des solidarités directes. Donc nous, ce qu'on met en place à la Plume Noire, là, c'est pas encore trop public, mais on l'a mis en place depuis début janvier, c'est une collecte de dons permanente. On l'avait fait en début d'année de septembre, c'était pour le camp No Border de Vintimille, mais on s'est dit, le camp avait fermé entre temps, donc du coup tout ce qui avait été donné à des migrants et migrantes sur place, sur Lyon, parce qu'il y avait de la demande. Et du coup on avait dit, il y a une nécessité quand même que ce soit permanent, quoi, cette collecte, parce que via les associations institutionnelles, il y a déjà des choses qui se font, les mairies font des appels aussi, mais bon, vu qu'ils font le tri dans les mairies, à la préf et dans les assos institutionnels, il y a des gens qui se retrouvent forcément à la rue de toute manière, sans rien, donc ça peut toujours servir. On a mis aussi en place des cours de langue, français, tous les lundis soirs à 18h à la Plume. Donc pour l'instant, c'est depuis le 4 janvier. Là aussi, il y a une demande du coup de matériel, parce qu'on n'a pas grand-chose. Petit à petit, on va accumuler du matériel pour nous aider à faire ces cours. S'il y a des gens de motivés pour filer la main, il n'y a aucun souci. Envoyer un petit mail ou passer directement à 18h un lundi. Puis après, il y a aussi ce réseau d'hébergement qu'on aimerait bien mettre en place d'une manière un peu plus concrète sur Lyon. Parce que, au niveau de l'urgence sociale, ça merdouille aussi forcément tous les ans en hiver. Il n'y a pas qu'à Lyon, mais à Lyon notamment. Et avoir un réseau aussi... d'hébergement pour les personnes qui sont à la rue, migrants, migrantes, mais après tout mêlé, de toute façon, tous ceux qui sont à la rue, ça pourrait être aussi intéressant que ça se fasse. Donc c'est aussi essayer de tisser des liens avec les différents réseaux qui existent sur Lyon pour avancer sur le travail, quoi. La dernière petite chose éventuellement, c'était, mais ça c'est aussi hyper compliqué de le faire dans des collectifs un peu traditionnels, on va dire, c'est sur l'auto-organisation des premières personnes impliquées. Ça se fait plus ou moins, j'ai l'impression, sur le collectif des étudiants et étudiantes étrangers et sans papiers, parce qu'il y a beaucoup de personnes concernées qui sont dedans et qui du coup participent aux décisions. C'est un peu moins le cas sur les autres collectifs, et du coup ça pourrait être aussi un des axes à avoir pour que ils soient premiers décideurs de ce qui se passe, quoi, en fait, pour eux.
Oui, parce que le collectif des étrangers, étrangères et étudiants, du coup ils font un journal, ils font pas mal aussi de solidarité directe,
Ouais, carrément. En fait, c'est un collectif du coup qui a existé à un moment donné, mais qui était un peu moribond les deux dernières années. Et là, il y a une nouvelle dynamique en début d'année, en fin d'année dernière, et c'est un truc qui a l'air, enfin moi du coup je suis pas dedans, mais qui a l'air vraiment de bien marcher. Parce que le collectif Jeunes Majeurs aussi avait batté un peu de l'aile, là, des RESF, mais a priori, si tout le monde se met en lien et avance un peu, enfin à chaque fois qu'il y a, au moins sur les manifs, la manif qu'il y a eu au mois d'octobre, le seul cortège des premières concernées, c'était le cortège de ce collectif-là, donc c'était vraiment bien, quoi. Donc voilà.
Ok, et par contre, il y a juste un truc que tu nous as pas dit, c'est comment on fait soit participer à la collecte de dons, soit recevoir...
Tout à fait. Ouais, pour les collectes de dons, il y a un article public, là, on va communiquer dessus assez rapidement, donc ce sera sur Rebellion aussi, notamment, je pense. La Plume Noire est ouverte donc les mercredis et les samedis, donc mercredi 17h-19h et samedi 15h-19h, à part en cas de mobilisation dans la rue, forcément. C'est dans ces moments-là que vous pouvez venir déposer du coup tout ce que vous avez. Donc il y a forcément collecte de vêtements, après ça peut être donc blousons, vêtements d'hiver, ça peut être sac de couchage, couverture, même matelas, parce que des fois il y en a besoin dans les squats, tente éventuellement, tout ce qui peut aider du coup à avoir un peu plus chaud, parce que là ça caille réellement dehors. Après tout ce qui est bouffe, notamment denrées non périssables, quoi. Aussi pour les gamins, parce que du coup il y a eu une demande assez importante sur ça aussi, la bouffe pour gamins, et tout ce qui était après nécessaire de toilettes, donc on récupère tout ça, et puis petit à petit soit les personnes vont se servir directement, notamment pendant les cours de langue, ou soit on ira distribuer quand on aura une demande bien concrète, en disant il y a tant de personnes et on aurait besoin de ça, de ça et ça, et comme ça on pourra donner ça pour la collecte.
Ok, super. T'as quelque chose à rajouter ou...
Je ne pense pas. Concrètement, par rapport à ce qui peut se faire aussi, c'est que vous avez peut-être en parlé tout à l'heure par rapport au 30 novembre, du coup, à la Plume Noire. Il y a une formation du coup sur le droit d'asile. Ça se fera à partir de 18h30. Ouais, tu dis quoi? Ouais, 30 janvier, ouais, tu dis quoi? C'est vrai? Ouais, je suis à la rue, c'est vendredi soir. Donc, ouais, c'est pas dans 6, dans 8 mois. Donc, c'est bien le. le 30, la semaine prochaine, samedi prochain, 18h30, à la Plume Noire, donc avec deux personnes du collectif Migrants et Migrantes de Marseille. Donc voilà, qui font du gros boulot a priori là-bas depuis un petit moment maintenant, et donc ils viennent sur Lyon donc pour nous faire une formation sur le droit d'asile, qui rejoindra un petit peu sûrement peut-être ce qui a été fait à la réunion publique de mercredi, mais voilà, peut-être d'une manière aussi un peu différente. Du coup apparemment il y a un UP PowerPoint avec plein de choses expliquées. Il y a une diffusion de courts-métrages, voilà, qu'ils ont fait ce collectif là là-bas en direct sur Marseille. Il y aura table d'info, table de presse, derrière sûrement peut-être deux trois projections encore. Et je dois oublier quelque chose, mais je ne sais pas. Bah voilà, en gros, je ne sais plus s'il y avait autre chose encore. Non, du coup, il y aura des traductions instantanées. Bah, comme j'en parlais tout à l'heure, bah, du coup, à cette réunion-là, ce sera fait. Au niveau anglophone, c'est sûr, ce sera fait. Au niveau traduction arabe-français, voilà, si jamais on a la recherche pour le moment, on a quelqu'un, mais ce n'est pas certain. Donc, s'il y a une personne qui veut se joindre au truc et pouvoir le faire, bah, on est preneur et preneuse, voilà, là-dessus. Parce que c'est un truc qu'on devrait vraiment mettre en place concrètement, quoi, maintenant, pour qu'ils puissent participer directement. Voilà.
Ok.
Merci.
Merci à toi, c'est gentil. Et peut-être qu'on peut passer à la suite et à cette super rubrique vélo.
Cette super rubrique vélo. Donc c'est un petit reportage sur un petit collectif qui s'appelle le Change de chaîne. Donc qui est un atelier vélo qui se situe à Vaise, à côté de Valmy. Et donc voilà, on vous laisse écouter ce petit reportage sonore. Voilà.
Je m'en allais chercher des oies, du côté de fouiller les oies, la bicyclette.
Change de chaîne, à Vaise.
Mais là, j'arrive plus à le placer correctement.
Ouais, c'est...
C'est à cause de la chaîne, non ? Non ? Ah non ?
C'est à cause de la chaîne, oui et non, mais tu vois, il va venir en place.
Ah, voilà.
Comme ça, mais je suis d'accord qu'il y a beaucoup de tensions dessus. C'est...
On refixe correctement le dérailleur, qui était mal posé. C'est un vélo d'occasion, et j'ai jamais pu me servir du dérailleur, parce qu'il était bloqué.
Regarde, avec cette clé, tu peux dévisser le boulon qui est là pour récupérer la rondelle qu'on va mettre au bon endroit, et je vais essayer de te trouver la ligne.
Ah oui, mais ça tourne comme ça tourne.
Ouais, t'as tout qui tourne avec, tu peux y aller, le dévisser, ça va vite venir.
Ah, voilà.
Donc ça, on va le mettre de côté, et le boulon, tu peux déjà le revisser, le revisser au même endroit, comme ça directement.
Ah oui, d'accord,
en mettant,
d'accord.
Tout en face. Et voilà, tu peux finir avec la clé.
Oh, mais je sens que ça va être super.
Ouais.
Parce qu'il s'était trompé de trou avant. C'est un vélo que j'ai acheté d'occasion.
Change de chaîne, c'est un atelier d'autoréparation de vélo qui est implanté à Vaise. On est accueillis temporairement donc au centre social Pierre Étaugier de Vaise là pour l'hiver, parce qu'on est dans un local pour l'instant un demi-local si je puis dire, vu que c'est un garage auto où on travaille en extérieur. Donc l'hiver arrivant, on est venu s'abriter temporairement au centre social, qu'on remercie d'ailleurs. Donc Change de chaîne, c'est un atelier d'autoréparation de vélo. Le principe, c'est d'accueillir des adhérents avec des vélos et qu'on leur apprend à réparer les vélos. Donc on a les outils et les connaissances, et le but du jeu, c'est vraiment de transférer les connaissances auprès des adhérents pour qu'ils puissent devenir autonomes en réparation mécanique et derrière en déplacement. Donc Change de chaîne, elle existe depuis, c'est une asso qui existe depuis septembre 2013, qui a toujours été à Vaise. On a commencé au début au château dans le ciel, rue de Bourgogne, donc au squat, où nos amis squatteurs nous ont accueillis dans un premier temps 3-4 mois avant que tout le monde se fasse expulser, malheureusement. Ensuite, on a enchaîné pendant 3-4 mois également au Radar, qui était situé sur la quai de Saône. Toujours hébergé par la même équipe, avec qui il y avait une envie d'éducation populaire qui rejoigne nos valeurs et nos convictions. Et c'était cool. Et puis on a arrêté ce type d'accueil pour pas mal de raisons. Déjà, de déménager un atelier vélo tous les 3-4 mois, c'est extrêmement compliqué. En plus, on travaille avec pas mal de pièces recyclées de vélos, et donc à chaque fois ça demande des manutentions qui est pas simple, d'autant plus que notre espace de stockage intermédiaire est au 6e étage sans ascenseur, donc je vous imagine pas le travail. Et ensuite, par rapport au squat, il y a le problème de l'accueil du public. où il est compliqué de faire venir du public, trop de public de l'extérieur, et du coup on tournait un peu qu'autour des squatteurs qu'on aime bien, mais du coup par rapport à la volonté d'ouvrir, on a trouvé que le système touchait un peu ses limites. Mais ça a été super parce que du coup on a pu faire un peu de trésor, et donc louer ce garage qui est situé rue des Bains dans le 9e et qui nous permet d'avoir un accueil beaucoup plus large, et ça marche plutôt pas mal parce qu'on a loué le garage depuis avril 2015.
Tu peux nous décrire un peu ce que c'est, ce garage ?
Alors ce garage, c'est vraiment un garage auto, un box qui fait 9-10 mètres carrés, et en fait qui a l'avantage d'avoir 3-4 mètres d'espace extérieur devant, privatif, donc c'est pas le trottoir, et du coup on stocke tout notre bordel dans le garage, qui a pas d'eau, pas d'électricité, donc c'est pas encore le grand luxe, mais on peut travailler dehors. Et nos voisins sont plutôt sympas, donc du coup on déborde largement de l'espace sur les autres garages devant, et on peut accueillir jusqu'à 5, 6, 7 personnes en même temps, et ça se passe plutôt bien. Et donc du coup quasiment 200 adhérents aujourd'hui, 180 je crois. Donc 160 nouveaux depuis avril 2015. Quoi. Donc on a vraiment trouvé notre public. On a vraiment, les gens sont intéressés. Quasiment pas de communication, seulement le bouche à oreille. Donc c'est vraiment super. Tous les âges, toutes les populations. Donc nous, ça rentre vraiment dans ce qu'on avait envie de faire. Donc c'est plutôt une belle expérience jusqu'à maintenant.
Parce que moi, je travaille ici jusqu'à 18h15 mars. Et ensuite, oui, je peux venir à l'atelier. Et je sais pas faire, mais je peux apprendre, j'apprends vite.
On peut t'apprendre, et, ouais.
Super. Il faut une inscription ou...
Ouais.
C'est une adhésion annuelle à prix libre.
Alors on cherche toujours un local, c'est toujours compliqué. Notre dernière piste qui est en route, c'est avec la mairie du 9e et le Citral, qu'il faut qu'on relance d'ailleurs, de nous faire héberger dans la gare de Vaise. Donc ça serait avoir un local dédié à l'interface métro-train pour favoriser l'intermodalité, comme on dit, et donc venir rajouter notre maillon au milieu. Donc nous, c'est une idée qui nous plaît plutôt bien. Après, on connaît tout le bordel que c'est administratif et institutionnel, donc pour l'instant, on fait pas non plus de plan sur la comète, mais on espère que les choses avanceront sur cette année.
Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette, nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien, et puis Paulette. On était tous amoureux d'elle, on se sentait pousser les ailes, à bicyclette. Sur les petits chemins de terre, on a souvent vécu l'enfer, pour ne pas mettre pied à terre devant Paulette. Faut dire qu'elle y mettait du cœur, c'était la fille du facteur, à bicyclette. Et depuis qu'elle avait 8 ans, elle avait fait en le suivant tous les chemins environnants, à bicyclette.
Du coup, on est une association loi 1901, mais on n'a pas utilisé les statuts standards. Donc on n'a pas de président, pas de trésorier et pas de secrétaire. En fait, on est un conseil collégial qui sert de direction. Donc une direction collective où on est 8 dedans. Et voilà, donc il y a pas de, on est tous sur un pied d'égalité, on est tous co-responsables de ce qui se passe. Donc voilà, dans la loi de 1901, il faut au moins une personne qui représente. Donc voilà, nous on est 8. Et voilà, on se répartit les tâches en fonction des envies, des besoins de chacun, des capacités. Bon, des capacités, pas trop, on essaye de faire tourner, que tout le monde fasse un peu tout quand même. Voilà, moi je viens d'être salarié là, de l'association depuis 2 mois. Donc je suis à la fois mon patron et mon employé, parce que du coup en tant que salarié, c'est pareil, on a fait des statuts pour se rapprocher un peu du statut coopératif, de mettre aussi des voix des salariés au sein du conseil d'administration de droit. Donc il n'y a même pas besoin de passer par des élections, jusqu'à 3 salariés au conseil d'administration, enfin jusqu'à un tiers ça va. Donc voilà, du coup je participe aux décisions. Et puis ensuite, dans notre fonctionnement, en fait, on fait pas par vote démocratique à 51%, on fait au consensus aussi. C'est-à-dire que chacun a le droit de veto. Donc voilà, on essaye de se mettre d'accord pour y aller tous ensemble, être tous d'accord. Et si quelqu'un n'est pas d'accord, bah on remet à plus tard, on rediscute ou on revoit. Mais voilà, on essaye de pas essayer de laisser un petit un tiers ou voilà une minorité qui serait pas d'accord dans le projet. Pour l'instant, ça marche, donc on est content que ça marche comme ça. Et voilà, ça fait 2 ans que ça marche comme ça, et puis on avance.
Voilà. Après, je pense que si tu utilises vraiment souvent ton dérailleur,
eh bien...
est-ce que tu peux maintenant, c'est bon, en fait, ton dérailleur, il fonctionne parfaitement, quoi. Enfin, parfaitement. Il y a juste cette question de câble, quoi.
Ouais. Et puis le fait que c'est quand même super dur, ouais, la manette. Dur,
ouais. Niveau mécanique, entre guillemets. Tu vois, il fonctionne,
ah oui,
quoi.
Super.
J'aurais craqué, mais
c'est une espèce de miracle.
Donc voilà. Après, il faut pas que tu... Si jamais tu utilises... Enfin, le câble, il va... Si tu t'en sers vraiment souvent, mm-hmm. le câble, il va finir par craquer, tu vois, parce qu'il est bien entamé.
Bah, ça sera l'occasion
entamé,
de revenir
quoi.
Vous voir.
Mais voilà, ça sera l'occasion de revenir nous voir et d'apprendre à changer.
Alors, on peut nous trouver... Alors, cet hiver, on sera un soir par semaine et le dernier samedi du mois. Alors, le mieux, c'est d'aller voir sur le site, parce que du coup, comme on est tous bénévoles, on essaie de s'organiser mensuellement sur la tenue des permanences. Et ensuite, on reprendra sur des horaires un peu plus élargis à partir du printemps au garage. Et concernant notre agenda, il y a 2 événements. Il y a les rencontres de l'Eurocyclage. L'Eurocyclage, c'est le réseau national des ateliers vélos d'autoréparation. Les rencontres sont accueillies par la Clavette lyonnaise. La Clavette, c'est la coordination locale des ateliers vélos, parce que l'échange de chaîne n'est pas le seul atelier vélo. On est plusieurs autres, et donc avec le chat perché de la Guillotière, les bikers de la Doie, la petite Rustine de Bron, tricycle de Pierre Bénite, on accueille donc les 120 ateliers du réseau à la Doie cette année, le 17 et 18 mars. Il y aura une partie du programme qui sera ouvert au public, et donc on tiendra tout le monde informé sur nos différents sites internet, notamment une véloparade le samedi 17 mars après-midi pour venir vélorutionner dans toute la ville. Donc on espère avoir du monde.
Tu peux le répéter ça.
Samedi 17 mars, vélo parade géante de l'Eurocyclage. On attend le maximum de monde pour foutre le bordel. Et donc ça, c'est notre prochain rendez-vous. Et le deuxième rendez-vous, c'est le 30 avril 2016. On organise une bourse à vélo à Vez. Donc il y a déjà 3 bourses à vélo qui sont ouvertes aussi par une autre asso amie vélo qui s'appelle Pignon sur Rue, qui est la maison du vélo du Grand Lyon, qui organise 3 bourses à vélo place Satonnet. D'ailleurs, c'est le 3 avril pendant que j'y pense. À place Guichard et à Villeurbanne. Et donc on s'est dit que comme il n'y avait rien de ce côté de la Saône, qu'il n'y avait rien pour le nord-ouest de l'agglomération lyonnaise, comme c'était notre quartier, on s'était dit que ça serait cool d'en faire une qui sera bourse à vélo festive et animée. Et donc aussi plus d'infos rapidement sur notre site internet.
Ce sera tout à fait comme à la radio. Ce ne sera rien, rien que de la musique. Ce ne sera rien, rien que des mots, des mots. Des mots, comme à la radio.
Canu Info.
Ça ne dérangera pas, ça n'empêchera pas de jouer aux cartes. Ça n'empêchera pas de dormir sur l'autoroute. Ça n'empêchera pas de parler d'argent. Ce sera tout à fait comme à la radio.
Nous, sinon, voilà, pour essayer de vivre un peu, on essaye de faire des prestations d'ateliers mobiles. Donc, si vous voulez inviter change de chaîne dans votre entreprise, allez, pour qu'on vienne faire des ateliers de réparer vos vélos, vous expliquer 2-3 conseils techniques sur les réglages de sécurité, les freins, les vitesses, ou même atelier des trucs, comment arriver à circuler en ville sans se faire écraser en respectant ou pas le code de la route. Ça, il y a différents modules. Voilà, on est là, et puis vous pouvez toutes les coordonnées sur change de chaîne sur internet. Et puis voilà, sinon venez nous voir à Valmy, on fait une bourse à vélo, ça va être la fête le 30 avril, et puis voilà, pour les rencontres, si vous voulez faire une petite vélo parade pour les rencontres de l'eurocyclage 18-20 mars. N'hésitez pas aussi. Voilà.
Eh ben génial. Alors j'ai une super blague, mais je sais pas si je l'ai dit ou pas. Je l'ai dit, mais bon, enfin bon, on espérera que ça roulera pour eux, cette petite atelier vélo.
Et rire enregistré.
Mais du coup, voilà, parce que là on parle de vélo, mais moi il y a une information que j'ai trouvée quand même qui me donne envie de gerber. C'est un truc de fou. C'est vraiment énervant. Il y a une personne à Lyon qui va perdre 2100 euros. Et cette personne, si c'est dégueulasse, hein. Cette personne, c'est Gérard Collomb. Et alors pourquoi Gérard Collomb, il va perdre 2100 euros? Pas du tout parce qu'il va fermer les bains publics, pas du tout. Mais parce qu'il n'est pas allé assez au Sénat, Gérard Collomb. Et ouais, pas de chance. Mais parce que, du coup, depuis mars, un sénateur qui ne va à moins de la moitié des commissions, des votes et des questions de gouvernement du, qui est présent à moins de la moitié, il perd 710 euros par mois. Et Gérard Collomb, et bah sur le trimestre de, octobre, novembre, décembre, il est allé que 11 fois au Sénat. Du coup, bah, le pauvre, comme il est surchargé, parce qu'il est quand même maire de Lyon, il est président de la métropole de Lyon, il est sénateur, il est président de plusieurs conseils d'administration, il est responsable de l'association des communautés urbaines de France. Il est, voilà, c'est pas possible pour lui d'aller au Sénat, et du coup, ben, perdu. Il peut pas recevoir toute son indemnité de sénateur. Il perd donc quand même 2100 euros. Et quand même, c'est bête parce que lui, ça lui sert vachement d'aller au Sénat. Ça lui sert, par exemple, quand il veut déclarer d'intérêt généraux, voire même général, les enceintes sportives pour l'Euro 2016. Ça lui permet de faire plein d'aides financières pour le Grand Stade de Lyon. Et du coup, ben, c'est pour ça qu'il reste au Sénat, lui, même s'il n'a pas le temps, le pauvre.
Est-ce qu'il y a une collecte de dons pour 2100 euros, quoi.
Envisagé, ouais. Puis on ne sait pas s'il est assez vieux pour aller au Sénat non plus. Enfin, non, bref. Du coup, est-ce que par exemple, je mets le jingle national? Parce qu'on passe au national, ou il y a encore des trucs sur Gérard?
Ça paraît Gérard. Tout à fait adapté.
Ah bah, adaptons-nous.
Canu. Info.
Gendarmerie nationale! Arrêtez un peu les conneries, là, non?
Savez-vous seulement ce que c'est qu'une dictature? Une dictature, c'est quand les gens sont communistes. Déjà, ils ont froid, avec des chapeaux gris et des chaussures à fermeture éclair. C'est ça, une dictature, Dolores.
D'accord. Et comment vous appelez un pays qui a comme président un militaire avec les pleins pouvoirs, une police secrète, une seule chaîne de télévision et dont toute l'information est contrôlée par l'État?
J'appelle ça la France, mademoiselle. Et pas n'importe laquelle. La France du général de Gaulle.
Info nationale.
Décidément, les temps comme les œufs sont durs. Et la bêtise n'a pas de limite.
Alors maintenant, nous voilà dans la rubrique nationale et on va parler de la loi de l'immigration. On en a déjà parlé dans le Canu Info du vendredi, puisque cette loi de l'immigration, elle a commencé à être préparée en juillet, pendant que tout le monde se faisait dorer la pilule. Mais là, il va y avoir des débats à l'Assemblée nationale mardi et mercredi prochain, en deuxième lecture de ce projet de loi. Le texte de projet de loi de maîtrise de l'immigration ouvre du coup une brèche dangereuse sur la levée du secret professionnel dans des secteurs comme celle de la santé, l'école, l'emploi et le social. Il y a plusieurs articles qui font qu'en fait, ils veulent un peu légitimer, enfin pas un peu, beaucoup, ils veulent légitimer la délation dans toutes les institutions du social et de la santé. Enfin, on va revenir dessus après. Du coup, en fait, ce projet de loi, à la base, il allongeait les durées de validité de la carte de séjour pour certaines personnes. Du coup, ça devait être un mieux, puisque ça devait sortir les personnes de la précarité des titres de séjour. Mais en fait, c'est bien plus pervers que ça. Et il y a un principe de surveillance permanente qui est mis en place avec ce projet de loi. Voilà, alors que l'obtention d'un titre de séjour soumise déjà à beaucoup d'obligations, vérifications et production de preuves leur aura été accordée, celle-ci pourrait maintenant être remise en cause à tout instant, créant finalement un climat de doute sur la sincérité de leur situation. Tout le monde devient de potentiels fraudeurs et donc il faut vérifier en fait tout le temps si les personnes qui demandent un titre de séjour ont toujours le droit, enfin voilà, sont toujours dans la même situation du départ quand ils ont demandé le titre de séjour. Du coup, dans ce projet de loi, en fait, il y a des contrôles qui font qu'il y a la levée du secret professionnel. Il y a les articles 8 et 25, notamment, qui sont votés pour le moment. Ce qui fait que Pôle emploi, les écoles, les universités, les hôpitaux, les fournisseurs d'énergie et opérateurs de téléphonie, les établissements bancaires auront l'obligation de donner des informations à la préfecture sur des personnes sous peine d'amende de 7 500 €. Alors, par exemple, voilà, ça peut être une personne qui fait une demande pour un titre au titre de la santé. Et après, la préfecture, ils vont appeler l'hôpital pour savoir si la personne a bien été hospitalisée, si elle vient bien à ses rendez-vous médicaux et tout ça. Ça va être, par exemple, la préfecture qui va demander à une école de prouver le lien entre un parent et son enfant pour vérifier voilà, si le parent il demande le titre de séjour en tant que parent d'enfant français. Enfin, voilà, ça fait vraiment un truc où tous les métiers d'accompagnement ou tous les métiers même, enfin voilà, autour de la situation des personnes qui demandent des titres de séjour, où tout le monde en fait va devoir collaborer avec la préfecture. Enfin, dans la loi, c'est vraiment ce qui est prévu, quoi.
Mais du coup, c'est que si la preuve demande.
Oui, mais le but, en fait, là, c'est qu'il y ait beaucoup plus de contrôle. Donc, la préf, enfin, il y a des super pouvoirs pour la préfecture qui va demander beaucoup plus aux institutions. Là, pour le moment, enfin, les gens refuseraient, mais enfin, bon, tout le monde. Mais en tout cas, enfin, je sais pas. Il y a quelques années, ça avait fait un tollé quand une banque avait dit, ah, voilà, cette personne elle est sans papier. Et maintenant, c'est là ce qu'ils demandent pour tout le monde, en fait, même dans les métiers d'accompagnement des personnes, quoi. Voilà, donc ça va être un délit de refuser de transmettre ces informations quand on est un personnel de ces organismes que j'ai dit juste avant. Voilà, en contradiction avec les principes d'accueil qui sont dits dans les médias et tout ça, ce texte ne rompt pas avec la logique répressive des étrangers qui vivent en France. Alors là, il y a même les structures d'hébergement qui seront sollicitées dans le cas d'expulsion des personnes, puisque l'article 22 prévoit la possibilité de venir les interpeller dans leur chambre en dehors de toute procédure pénale engagée. Donc ça remet vraiment en cause en fait, tous les métiers d'accompagnement et toutes les missions du social aussi, quoi. Voilà, donc tous ces articles, ils assimilent délinquants et étrangers. Et ils mettent à mal l'intégration des personnes titulaires de titres de séjour dans leur pays d'accueil. Et c'est pour ça qu'il y a plein d'associations qui demandent la suppression de ces articles-là. Donc, enfin, voilà, il y a plein d'associations qui ont signé ce texte et il va falloir faire une grosse mobilisation là-dessus. Voilà, il y a la FNARS qui regroupe des associations du social, Emmaüs, la Fondation Abbé Pierre, Anna, enfin voilà, je vous dis pas tout, toutes ces choses-là. En fait, si vous voulez des informations en détaillé, il y a la CIMAD qui a fait une analyse du projet de loi. Pour bien expliciter ce qu'il y a dans ce projet.
Et on la trouve où, cette analyse de la CIMAD?
On la trouve sur le site du GISTI, sur le site du GISTI ou sur le site de la CIMAD également d'ailleurs. Mais du coup, en fait, là, ce qui s'est passé, c'est que le Sénat a vraiment durci encore plus ce texte qui était déjà, qui n'allait pas dans le sens des droits pour les personnes immigrées. Et déjà, rien que dans l'appellation, au début, ça s'appelait le projet de loi relatif aux droits des étrangers en France. Et maintenant, ça s'appelle le projet de loi portant diverses dispositions relatives à la maîtrise de l'immigration. Voilà. Donc, pour le moment, du coup, il y a une commission des lois qui s'est réunie le 20 janvier 2016 et l'examen du texte par l'Assemblée nationale va se dérouler le 26 et le 27 janvier. Et voilà, du coup, pour entrer un petit peu plus dans les détails quand même, du coup, il y a le Sénat qui propose que le Parlement détermine pour chaque période de 3 ans des quotas fixant le nombre de personnes étrangères admises à s'installer en France par catégorie. Du coup, le respect des droits individuels sera ainsi conditionné à une gestion chiffrée du nombre des personnes migrantes. Un visa pourrait donc être refusé au seul motif que les quotas seraient atteints. Du coup, enfin voilà, c'est ça, c'est que du coup, si on fait la demande, si une personne fait la demande et qu'il y a déjà le quota de personnes qui ont fait des demandes, bah voilà, ça va juste être refusé parce qu'on est plein, quoi. Enfin voilà, c'est vraiment abusé ce truc-là. Ensuite, dans ce projet de loi, du coup, eux, ils présentent ça comme quelque chose qui va être plus souple, qui va permettre de faire moins de démarches administratives, puisque dans la loi, il y a la création d'une carte pluriannuelle pour la sécurisation du parcours, entre guillemets. Alors, en fait, ça fait que... en fait, c'est une carte pluriannuelle, donc ça fait que c'est des personnes, par exemple, qui pour le moment avaient des cartes d'un an, qui pourront avoir jusqu'à 4 ans de séjour en France, mais en fait, ça va être seulement pour une minorité de personnes étrangères, puisque le Sénat a réduit purement et simplement son bénéfice aux seules personnes titulaires de la carte de séjour temporaire. Voilà, et ça exclut vraiment un grand, grand nombre de personnes, les personnes victimes de la traite, les personnes, enfin, beaucoup de personnes, enfin, n'auront pas accès à ça, alors que c'est ça qui doit être le côté positif de cette réforme. Et en fait, l'argument gouvernemental, c'est qu'il y a une simplification du droit au séjour. Mais en fait, c'est pas du tout le cas, puisque là, avec cette réforme, du coup, il va y avoir des allers-retours potentiels entre une carte d'un an, de 4 ans, puis d'un an, puis de 2 ans, puis d'un an. En fait, ça simplifie rien du tout. Voilà. C'est pas plus simple. Et en plus, dans cette loi, au nom de la lutte contre les fraudes, les préfets se verront remettre des pouvoirs de contrôle démesurés, bon, notamment ce qu'on a dit juste avant, quant aux libertés fondamentales. Et à tout moment, les personnes titulaires d'une carte de séjour devront se tenir prêtes à répondre aux convocations préfectorales et justifier qu'elles continuent à remplir les conditions leur ayant permis d'obtenir leur titre de séjour. Leur titre de séjour leur sera retiré si elles ne répondent pas à ces injonctions. Voilà. Du coup, ça, c'est pas terrible. Mais en fait, il y a vraiment plein de trucs dans cette loi qui sont vraiment néfastes. Par exemple, pour les personnes qui vont demander un titre de séjour au titre de la santé, jusqu'à présent, c'était le ministère de la Santé qui faisait des certificats médicaux et qui l'envoyait ensuite à l'OFI. Là, l'idée, c'est que ce soit directement des médecins qui dépendent de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui fasse l'évaluation pour dire si les personnes, elles peuvent ou non avoir le titre de séjour par rapport à la santé. Du coup, c'est un peu vraiment bizarre que le ministère de l'Intérieur donne son mot à dire en matière de santé publique. Et du coup, enfin, ça fait que là, par exemple, les titres de séjour, ils vont durer le temps des soins. Mais ça, c'est pareil, en fait, ça veut rien dire. Des soins, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Et ça met vraiment des gens dans une précarité et dans un inconfort parce qu'ils ne vont pas du tout savoir voilà, jusqu'à quand ils pourront rester. Voilà, après, il y a aussi... je vais arrêter bientôt. Mais il y a aussi la suppression de l'aide médicale d'État. Enfin, voilà, l'aide médicale d'État, c'est pour les personnes qui n'ont pas de papier. Là, ça va être payant maintenant. Enfin, symboliquement, ça refait un truc vraiment chiant, quoi. Par exemple, pour les travailleurs immigrés, là, c'était déjà hyper, hyper, hyper dur de demander une régularisation par le travail. Et là, maintenant, par exemple, même si on a un CDD, ça marche pas. Il faut un CDI pour demander une régularisation. Enfin, ils demandent des trucs qui n'existent même plus de nos jours en 2016. Enfin bref, en fait, il y a encore plein de trucs comme ça, mais je vais pas. Enfin, vous pouvez aller sur le site de la CIMAD. Vous tapez sur internet CIMAD, analyse CIMAD du projet de loi d'immigration. Vous aurez vraiment les détails, parce qu'il y a encore d'autres mesures d'éloignement qui ont été créées, des nouveaux délits qui ont été créés pour les migrants qui refusent de quitter le territoire quand ils ont des OQTF, des peines plus longues d'interdiction de séjour en France. Pour voilà, quand les personnes ont eu des obligations de quitter le territoire, enfin ça fait vraiment un truc de criminalisation des personnes migrantes.
Ok, donc on a débordé un petit peu. On va embrayer tout de suite. Alors moi j'étais prévu à la base dans l'international, mais je m'incruste dans le national parce que c'est comme ça. Je vous parlais comme par hasard du gaz de schiste et notamment. Non, on ne rigole pas. En fait, c'était un truc dont je voulais vous parler déjà la semaine dernière, figurez-vous, et dont je vous ai parlé il y a 15 jours. Donc en fait, c'est juste pour vous rappeler que Total tente d'obtenir son permis, la réobtention de son permis d'exploitation de gaz de schiste, donc, qui s'appelle le permis de Montélimar, donc qui s'étale entre la région de Montélimar et de Montpellier à peu près. Et même un peu plus haut vers Valence. Donc alors pour rappeler un peu cette histoire, Total a obtenu ce permis en 2010 pour une durée de 5 ans. Et donc c'est une superficie qui fait à peu près 4500 km². Et en fait, pas de bol, en 2011, il y a eu une abrogation sur l'exploitation du gaz de schiste, notamment par la technique de fracturation hydraulique. Donc en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'à la base, Total a déclaré sur son permis de Montélimar qu'il allait rechercher du gaz de schiste en utilisant la fracturation. Et donc il l'avait modifié juste après la promulgation de la loi, et en disant qu'il allait utiliser d'autres techniques. Mais du coup, le permis a quand même été retiré. Et en fait, ils jouent là-dessus maintenant. Ils disent, maintenant, on est en droit de le récupérer, puisque, en fait, la loi stipule que c'est uniquement si on utilise la technique de fracturation hydraulique. Et c'est ce qui... l'affaire qui est un peu en cours en ce moment. Alors, en principe, donc il y a déjà eu... c'était au début d'année, là. Un premier jugement, et en fait il va y avoir le délibéré qui va être fin janvier. Donc là il y a beaucoup de gens en fait qui s'inquiètent, notamment toutes les personnes, tous les collectifs qui luttent contre l'exploitation du gaz de schiste. Ça leur permet une fois de plus en fait de souligner l'ambiguïté en fait de cette loi, puisque effectivement elle interdit uniquement la technique, c'est-à-dire du coup la fracturation hydraulique, et non pas l'exploitation en elle-même. Et donc, et là, ça montre clairement, Total, il essaye d'utiliser cette faille, en fait, pour obtenir son permis, sachant qu'en plus, l'obtention de ces permis, à titre de recherche, donne, par extension, le permis de l'exploitation. Et ça, il n'y a pas du tout de frein là-dessus. Donc c'est pour ça que c'est important qu'en fait, ces gros groupes d'exploitation n'obtiennent pas ces permis de recherche. Donc voilà, et donc c'était pour rappeler un peu ces situations. Donc le jugement va être rendu, le délibéré de ce jugement va être rendu fin janvier. Il y a des mobilisations qui sont prévues, notamment en février. Je n'ai pas les dates en tête. Et voilà, pour rappeler en fait l'urgence de modifier ce texte de loi, et de pas juste interdire la technique, mais de complètement interdire l'exploitation même du gaz de schiste. Alors il y a une réforme qui est en cours, mais du coup a priori c'est pas du tout l'axe que va prendre cette réforme, c'est-à-dire il ne va pas du tout y avoir d'interdiction d'exploitation. Donc voilà, donc on vous tiendra évidemment au courant du rendu du jugement. Donc voilà. Et on vous poursuit sur le côté international maintenant.
Dans la rubrique internationale du Canu Info, On entend l'écho de lutte. On écoute des reportages insoupçonnés de manifestations à travers le monde. On évoque des thèmes variés comme le gaz de schiste
et d'exploitation de gisements de gaz de schiste.
Les mouvements sociaux, les luttes et la France-Afrique. Bonne écoute dans la rubrique internationale.
Et oui, donc le gaz de schiste, il n'y a pas qu'en France que ça fait des ravages. Donc du coup, une fois n'est pas coutume, on va aller voir ce qui se passe dans le Midwest des États-Unis. On a mis nos chapeaux de cow-boy et cataclope, on est allé dans l'Ohio à Youngstown. Youngstown, c'est une ville d'une des régions les plus pauvres des États-Unis. C'est ce qu'on appelle la Rust Belt, là où il y a eu la désindustrialisation qui a complètement explosé la ville. Tous les étrangers passent leur chemin, sauf s'ils aiment le gaz de schiste. Parce que c'est aussi, bien sûr, l'une des principales lignes de front de l'exploitation du gaz de schiste. On y pratique la fracturation hydraulique, comme on vient de le voir, qui est peut-être en passe d'être autorisée en France. Et une autre méthode aussi bien dangereuse, ils injectent les eaux usées, en fait, les eaux polluées par la fracturation hydraulique dans les sols. C'est-à-dire qu'il y a la plupart des usines du coup qui exploitent le gaz de schiste, qui vont refiler dans des petits camions leurs eaux usées à des petites entreprises un petit peu plus petites et qui vont aller la foutre dans les sols un petit peu ailleurs, s'ils ont le temps d'aller jusqu'à leur usine, ils la mettent dans leur usine et ils l'injectent dans le sol, puis sinon ils ouvrent juste la vanne au-dessus d'un ruisseau qui passe, ni vu ni connu, par derrière la cravate. Mais alors du coup, ce qui n'est pas drôle à Houston, par hasard, par ailleurs, c'est qu'avant 2011, donc avant le début des forages par fracturation hydraulique pour le gaz de schiste, il n'y avait eu aucun séisme. Et entre 2011 et 2014, il y a quand même eu 500 séismes, donc, dont plusieurs de catégorie 4. Il faut bien reconnaître que ce n'est pas complètement drôle. Et alors pourquoi les habitants de Houston, eux, ils acceptent? C'est parce qu'ils espèrent des emplois et un développement économique. Et donc, qui va faire ce développement économique? Des entreprises françaises, au premier rang, Total, qui a racheté une entreprise du coin, et une autre qui s'appelle Vallourec, qui est une autre entreprise française. Alors, en réalité de développement économique, par exemple, Vallourec, elle a ouvert une usine de production qui fabrique des tubes de forage en 2011, et puis depuis, ils ont supprimé les moitiés, voire les deux tiers de leurs emplois. Mais donc concrètement, qu'est-ce qui se passe quand les entreprises rachètent les entreprises françaises rachètent les droits de ces entreprises des États-Unis? C'est que en loose day, il y a des gens qui viennent et puis qui vont acheter les droits de forage des sols, et puis après ils se les passent entre eux, des autorisations un petit peu sont accordées, voilà, sans consultation. Et puis du coup, du jour au lendemain, tu peux te retrouver avec un gros puits de forage dans le jardin d'à côté. Et donc c'est ce qui arrive du coup à une petite équipe de retraités qui habite dans un parc de mobil-home à côté de la ville de Houston, et en pleine nuit, bam, une immense flamme de 30 mètres de haut et un vacarme pas possible, un bordel monstrueux. Et en fait voilà, il y a un puits de forage qui s'est ouvert, tac, d'un coup, quoi. Et alors depuis, bien sûr, ils se plaignent déjà du bruit, mais aussi de la pollution des sols, et puis ils ont plein de maladies de la peau, ils étaient là pour passer tranquille leur retraite, et puis du coup, pas de bol. Voilà, un puits de forage. Et dans le même genre, il y a les petites multinationales du coin utilisent des techniques un petit peu, pas forcément claires pour obtenir les droits de forer le sous-sol. C'est-à-dire que c'est bien avant le moment où on parle de gaz de schiste, bien avant qu'on parle de forage, bien avant qu'il y ait des puits de forage, il y a des mecs qui se pointent et qui viennent acheter les droits du sous-sol et qui parlent qu'après, si jamais il se passait quelque chose dans le sous-sol, les propriétaires des sols qui offrent leurs droits pour le sous-sol recevraient des dividendes, recevraient plein de choses en contrepartie, et ce qui fait qu'ils les achètent genre $5 l'acre, et puis qu'ensuite ils sont revendus genre $15,000 l'acre. Donc c'est vrai que ça fait une petite plus-value un peu sympa quand même, quoi. Le pauvre Gérard Collomb, à côté, que c'est 2 500 euros qu'il a perdu, il est dans les choux. Mais en plus, ce qu'elles font derrière les entreprises, c'est que elles versent effectivement des royalties, quoi, des dividendes aux propriétaires des terrains, mais elles leur enlèvent de ces dividendes des frais de transport, des frais de gestion, des frais d'extraction, enfin voilà quoi, tout ce qu'il leur faut pour pouvoir forer le sol. Et donc à tel point qu'il y a des gens qui avaient comme ça vendu les droits de forage de leur terrain et qui se retrouvent à payer en fait pour que l'entreprise fore sur leur propriété. Donc c'est au top du top. Donc Houston, j'ai perdu ma métaphore avec les chevaux et les chapeaux de cow-boy, je suis désolé. Mais voilà, je pourrais peut-être en parler une autre fois. Plus en détail. Et je vais juste, du coup, sans transition, vous parler de la police en Angleterre. Parce que, du coup, on trouve que notre police à nous, elle est quand même bien au taquet niveau état d'urgence, niveau terrorisme, tout ça. Donc, on avait un petit peu peur que dans les autres pays, ils ne soient pas à un tel niveau de vigilance. Mais vous inquiétez pas, en Angleterre, c'est pareil. Donc, par exemple, on a un gamin de 10 ans, pas de bol, il fait une dictée, c'est une rédaction, il doit raconter, il doit parler de sa maison. Et alors lui, comme il a 10 ans, il est un peu bête, il se plante, il écrit pas maison mitoyenne, mais maison terroriste, parce qu'en anglais, maison mitoyenne, ça se dit terrorist. Et terroriste, ça se dit terroriste. Du coup, il se trompe, il sait pas écrire, le pauvre. Et qu'est-ce qui se passe? Son professeur, il voit écrit, oh là là, maison terroriste. Mais en plus, pas de bol, ce petit gamin, il est musulman, sa famille. Et du coup, qu'est-ce qu'il fait, le prof? Il prévient tout de suite la police. Et la police, tac, le lendemain, il l'arrête, il l'emmène au commissariat. Il l'interroge avant de se rendre compte que le pauvre, il savait juste pas écrire.
Ah, c'est son inconscient qui était follement.
C'est à cause de Freud, tout ça.
Et voilà, on n'a plus qu'à passer à l'agenda, alors.
Mais oui, qu'est-ce qui se passe ce soir?
Il y a eu un blanc, on est tellement en avance, et en plus, on n'a pas de jingle pour l'agenda. L'agenda, il commence dès ce soir, et maintenant. Donc, il y a notamment en cours, parce que ça a déjà commencé, c'était à 19h, il y a deux choses. Il y a la Boom anniversaire super féministe. Donc il y a plein de choses, de la musique, des choses à grignoter, des stands d'information, etc. Donc c'est entre 19h et puis minuit. Enfin, jusqu'à au bout de la nuit, quoi.
Au bout de la nuit de Cendrillon, quoi.
Donc, lavoir public, 4 impasses Flessel, à côté des bains publics, justement. Donc, c'est ouverte à tout le monde, voilà. Il y a une entrée de 2 euros donc d'adhésion au lavoir. Et prix libre, voilà. Et puis ce soir aussi, il y a projection de Je lutte donc je suis, donc un film de Yuluntas, et suivi d'un, donc ça concerne la Grèce. Enfin, Yuluntas est un grec.
Ouais, je crois qu'il part un peu en Espagne et ailleurs.
Ouais, ça relate un peu des luttes, etc. Et suivi d'un concert, donc les concerts, il y a Lepression et Stukas, donc voilà, du reggae rock.
Mais c'est où?
Ah oui, c'est vrai, j'ai pas dit, c'est à la Plume Noire, voilà, qui est l'adresse, merde, j'ai pas l'adresse exacte.
8 rue d'Hydro.
8 rue d'Hydro, oui. En plus, ça a changé, il paraît. Donc.
Et dans la semaine qui va venir après, il y a aussi une réunion du comité de soutien au bain-douche à la salle Kuruma, qui se trouve au milieu du jardin des Chartreux. Et ils vont faire une fête, toujours pour soutenir les bains-douches, plus de bains-douches, avec des crêpes et tout, le 2 février.
Y a demain, il y a un débat. C'est demain, hein, je crois, je me gourre pas. j'ai pas noté la date, mais je pense que c'est avant lundi. Ça veut dire que c'est samedi. Y a un débat autour du livre, donc ça se passe à la Griffe, autour du livre Les Nains de Lia Jiatsu. Donc ça parle d'une société sans père ni mari en Chine. Donc voilà, donc si ça vous intéresse, et ben rendez-vous donc à la Griffe à 15h, à partir de 15h. Oui, c'est le samedi 23, si je viens de voir. Donc c'est bon.
Ah oui, on en profite pour rappeler que demain soir, bien sûr, au théâtre de l'Iris, il y a une pièce de théâtre qui s'appelle « Et l'humain d'abord », qui parle de Fernand Deligny, dont on a déjà parlé la semaine dernière.
Et on peut rappeler une dernière fois que samedi prochain, à la Plume Noire, il y a une formation sur le droit d'asile suivie de projections à 18h30, donc au 8 rue Diderot.
On va rappeler aussi vite fait la permanence juridique de soutien sans papier, donc lundi, donc à la Lutine, et puis à 19h. Et le mardi 26, on vous rappelle quand même la grève hein, et la manifestation pour un service public de qualité. Et le pouvoir d'achat, toujours et éternellement le pouvoir d'achat. Donc voilà.
Et il y aura une manifestation le 2 février à 19h. Non, il y aura une réunion d'abord à la maison de la Guillotière. Tenez-vous prêts pour la manifestation le 6 février.
Et voilà.
Et ça vous... serait contre quoi cette manifestation, par exemple ?
Contre l'état d'urgence.
Et maintenant, donc, on a fini le Canu Info. On est juste. Et maintenant.
Noise Pollution !
Noise Pollution. Voilà. Bonne soirée.